Dans cette deuxième leçon du cours sur Ludwig Mies van der Rohe entre Berlin et Chicago, entre l'Allemagne et l'Amérique, je me centrerai sur ces projets manifestes du début des années 20 à Berlin, projets qui font de lui, qui donnent de lui l'image d'un véritable novateur et qui vont être déterminants pour définir sa stature sur la scène allemande. Cinq projets élaborés entre 1921 et 1923 que je présenterai l'un après l'autre. Mais avant de me pencher sur eux, je voudrais évoquer le premier article jamais consacré à une vision d'ensemble de l'œuvre de Mies van der Rohe. L'article de Paul Westheim, publié en 1927, sous le titre Le développement d'un architecte. Et il est intéressant de voir que Westheim, alors qu'il présente donc le nouveau Mies van der Rohe, Ludwig Mies devenu van der Rohe, après avoir anobli son nom, donc le nouveau Mies était annoncé seulement par deux projets avant 1914, et ce sont seulement les projets. Ces deux projets que Westheim publie, sans doute d'ailleurs sous l'influence de l'architecte lui-même, c'est-à-dire le projet, deux projets non réalisés, le grand projet pour la maison Kröller-Müller à Wassenaar, un projet très ambitieux et dont Mies sera écarté, et le petit projet non réalisé, sans doute à cause de la guerre, pour une maison de week-end pour l'architecte à Werder. Deux projets à toit plat, deux projets avec une grande extension horizontale, deux projets pensés en continuité avec le paysage environnant, comme le seront les maisons que Mies étudie au début des années 20. Alors, l'évocation de ces projets initiaux par Wertheim a sans doute surpris les lecteurs de 1927, tant la coupure entre ces deux premiers projets. Ces projets antérieurs et ceux du début des années 20 est remarquable. Donc, cinq projets portant à la fois sur la sphère des affaires, deux immeubles de bureaux en verre, un immeuble de bureaux en béton et deux projets de maisons de campagne, de maisons de week-end, un peu dans la continuité des programmes qui avaient été ceux de Mies avant la guerre de 14. Alors parlons de la guerre. Mies, je l'ai déjà dit, la passe entre Francfort et la Roumanie. Il n'est pas extrêmement actif et se débrouille plutôt pour tirer au flanc et échapper aux dures réalités du front que connaissent d'autres architectes. On peut penser à Erich Mendelssohn, on peut penser à Ernst Mai, qui sont actifs sur les fronts où ils dessinent d'ailleurs, où ils font d'ailleurs des projets. Pour ce qui est de Mies, les choses sont différentes. Nous voyons ici une évocation des horreurs de la guerre qu'il ne connaît pas dans ce tableau d'Autodix. Mies est à Berlin au moment de la révolution spartakiste de 1918, mais je n'ai pas le sentiment qu'il s'y intéresse beaucoup. Et qu'il ait une véritable activité politique. En revanche, il est clair qu'il s'intéresse aux activités des groupes utopiques formés d'architectes et d'artistes, même si les rapports avec eux ne sont pas si faciles. Le principal d'entre eux est le Conseil de travail sur l'art, l'Arbeitsrat für Kunst, qui rassemble des architectes comme Bruno Taut ou Walter Gropius et des artistes comme Max Pechstein, qui en dessinent le manifeste. Pechstein, qui était intervenu dans la maison Perls de Mies avant la guerre. La principale manifestation publique de l'Arbeitsrat für Kunst est en 1919 une exposition intitulée Exposition pour des architectes inconnus. Et c'est une frustration pour Mies, car Walter Gropius, qui l'organise, l'en écarte. Il affirme notamment que son projet de maison Kröller-Müller n'est pas exposable car nous cherchons vraiment quelque chose de complètement différent. Donc, Mies sera mortifié par son exclusion de cette manifestation et restera à l'écart des, sans doute aussi parce qu'il est plus jeune, restera et moins affirmé, je dirais, que comme architecte encore, restera à l'écart des manifestations utopiques de la chaîne de verre, par exemple, dont l'un des principaux artisans est Bruno Taut. C'est en effet autour de la mouvance de Taut que se forme le conseil de travail, l'Arbeitsrat. Taut qui s'intéresse à l'hypothèse d'une architecture cristalline, d'une architecture alpine, selon ses termes, qui permettrait de construire des palais voué à l'amitié entre les peuples et à la paix sur les sommets alpins. Taut s'intéresse également à la dissolution des villes, à l'idée que les villes sont révolues, sont des produits du capitalisme et qu'il faut les dépasser dans une version radicale des théories de la cité-jardin que ces aquarelles extraordinaires de 1920 transcrivent. C'est aussi dans ces réseaux des expressionnistes, de la chaîne de verre notamment, qu'émerge une idée de nouveaux types de bâtiments, notamment de maisons du peuple, de lieux de communion, de rencontres, où l'architecture et la peinture et la sculpture se trouveraient réunies. Mies reste à l'écart de cela. En revanche, il est actif et il est intéressé par les réflexions qui se déroulent à partir du début des années 20 sur les métropoles, sur Berlin Großstadt, Berlin métropole, qui illustre par exemple ce collage de Paul Citroën, élève néerlandais du Bauhaus, qui sur cette vue d'une métropole imaginaire, sur ce collage, assemble beaucoup de vues de l'Amérique et de vues de villes américaines et de vues d'édifices berlinois. Mies est absorbée notamment, est engagée dans la discussion sur ce que certains appellent la nécessaire troisième dimension de Berlin. C'est en 1912 que le Berliner Morgenpost avait traité de cette question dans une enquête publiée alors sous forme de brochure, dont vous voyez ici l'extraordinaire couverture. Cette couverture semble anticiper de Kurt Safransky, qui était un illustrateur et pas de métier, et pas un architecte. Cette image montre en effet combien le bâtiment que Mies réalisera dans les années 50, le Seagram Building, semble ici comme annoncé par ce volume prismatique qui se dresse au-dessus d'une rue bien éclairée. Donc cette idée d'une troisième dimension nécessaire pour Berlin, elle est discutée par une série d'auteurs dans cette brochure, notamment Peter Behrens, avec qui Mies est en train de cesser de travailler, l'architecte Bruno Möhring ou Walter Rathenau, dirigeant de l'AEG, c'est-à-dire patron, maître d'ouvrage de Behrens, mais aussi familier du salon des Rilles que fréquente Mies. Rathenau affirme à propos de New York dans cette brochure, je cite, « Depuis le Moyen-Âge, rien d'aussi imposant que la City de New York n'a été créé. Pour la première fois, la création de ces façades qui montent à l'assaut du ciel manifeste la naissance d'une nouvelle pensée constructive en architecture. » Et Rathenau oppose très clairement cette pensée radicalement nouvelle au compromis, à ce qu'il appelle les compromis des édifices berlinois contemporains. Quant à Möhring, familier du Nouveau Monde, il y a construit, il considère que la constitution du sol de Berlin n'est en rien un handicap pour la construction de quelque hauteur que ce soit. Et Möhring sera engagé, on va le voir, dans l'opération qui permettra à Mies de dessiner son premier bâtiment. La discussion sur la métropole, c'est aussi une discussion esthétique et, je dirais, fonctionnelle, organisationnelle. En termes d'esthétique, c'est le livre de August Händel, La beauté de la métropole, Die Schönheit der großen Stadt, publié en 1908, qui est sans doute le déterminant. Händel, qui est un architecte munichois, dont dont l'écriture au début du siècle est plutôt celle dans la veine du Jugendstil, même s'il édifie à Berlin des édifices plus rationnels, Handel célèbre les mille beautés de la métropole. La métropole, pour lui, est une merveille de beauté et de poésie pour quiconque est prêt à la regarder. Elle est un conte de fées avec plus de couleurs, d'intensité et de variété que tout ce que les poètes ont jamais imaginé. Une maison, une mer qui donne chaque jour plus de joie et de bien-être à ses enfants. Donc, une métropole qui chatoie grâce à ses bâtiments, grâce à ses gares, grâce à ses rues. Cette métropole, il faut l'organiser aussi, et c'est ce que propose l'historien de l'art et critique Karl Scheffler dans son livre « L'architecture de la métropole » en 1913. Il propose de repenser la métropole de façon rationnelle, de l'organiser de façon rationnelle, en séparant notamment les quartiers d'affaires du centre avec leurs ruches de bureaux, j'insiste sur ce terme de ruche, j'y reviendrai. Il insiste sur l'importance de séparer le quartier central de la métropole, la cité des affaires, du reste de la ville, et donne comme exemple d'une architecture métropolitaine la halle des turbines et les autres bâtiments de Peter Behrens, que Mies connaissait et qu'il avait en partie dessiné. C'était en 1910 que le débat sur la métropole s'était, coagulé ou structuré à Berlin à l'occasion du concours pour le plan d'extension de la capitale, pour lequel Möhring, avec l'urbaniste Eberstadt et l'économiste et ingénieur Petersen, avait imaginé un principe extrêmement clair et qui sera un des principes d'urbanisme les plus importants du XXe siècle. Vous voyez ici leur dessin et son interprétation schématique qui montre la métropole, en l'occurrence Berlin, comme ayant un centre d'affaires très dense, très haut, entouré de quartiers d'habitation et de quartiers industriels que séparent des pénétrantes vertes. Ce schéma est un schéma qui sera aussi important au XXe siècle que le schéma des trois aimants d'Ebenezer Howard, le schéma de la cité jardin. Alors Möhring est engagé. Möhring propose dès 1914 la construction d'un immeuble en hauteur sur un site proche de la Friedrichstrasse, un site triangulaire. Il incite les organisations professionnelles à faire pression sur le ministère prussien de l'Intérieur qui gouverne Berlin pour autoriser les dérogations un plafond de hauteur qui est fixé strictement à 22 mètres, c'est-à-dire plus ou moins la corniche du palais impérial. Et il est derrière, Möhring est derrière la société pour la Turmhaus, la société pour l'immeuble tour, qui lance en novembre 21 un concours pour un édifice de 80 mètres de hauteur. Et vous voyez ici la presse interpréter ce concours comme traduisant cette clameur qui monte pour la construction de gratte-ciel à Berlin. Voici le terrain où ce projet aurait dû être réalisé. Le triangle de la Friedrichstrasse se trouve ici. On le voit en plan. On voit ici la gare de la Friedrichstrasse, la Spree. La Friedrichstrasse passe ici. Et vous voyez ce triangle qui est donc destiné à être aménagé avec cette tour. Ici, nous voyons à nouveau le fameux triangle, la gare elle-même, avec une architecture qui n'est pas sans importance sur le concours, et le triangle sur lequel une série d'architectes se confrontent leurs projets. Donc, entre la fin 21, qui est l'énoncé du concours, et 1922. Alors, beaucoup de projets méritent qu'on les commente, d'autres ne le méritent pas tant. Je soulignerai l'originalité de ce d'Otto Kautz, qui est un architecte berlinois qui n'aura de cesse de proposer des gratte-ciels à Berlin, à la fois pour la République de Weimar, pour les nazis et pour l'Allemagne de l'après-guerre. À droite, le projet de Hugo Hering, qui est proche de Mises, qui est un des projets les plus radicaux avec celui de Mises, en tout cas un projet qui a une tectonique très, vous le voyez ici, très, très effacée, très lisse, très, presque aérodynamique. Le projet de Martin Elsässa, qui a des accents néo-gothiques, un projet anguleux, expressionniste, qui a le mérite de produire de forts effets, de forts contrastes d'ombre et de lumière. Le projet de Hans Pölzig, magnifique dessin au fusain de cet édifice austère qui aurait été une expression très sombre du monde des affaires. Le projet beaucoup plus, vous le voyez ici, contrasté, incluant une grande cour intérieure de Hans Scharoun, qui est un projet qui joue à la fois sur les rythmes horizontaux prolongeant la rue et puis sur une espèce de faisceau de volume anguleux. Mies s'oppose radicalement à tous ces projets que la presse se plaît à caricaturer. Voici une page d'un journal berlinois qui nous montre ces bâtiments sous l'aspect de robots ridicules à gauche et à droite, d'une énorme tour de Babel ou de tours démesurées et quelque peu anthropomorphes. Donc Mies s'oppose à tout cela avec son projet qui, vous le voyez, n'a rien de commun avec les précédents. Il est présenté à l'enseigne de la ruche. Chaque projet est remis avec une devise, c'était courant pour les concours à l'époque. Le projet de Mies est remis sous la devise « ruche ». Et nous allons voir que ceci est tout à fait important. Donc c'est un bâtiment qui a comme caractéristique, si on le compare au précédent, d'être monolithique, d'être un seul prisme qui n'a ni base, qui n'a aucune base, contrairement à ceux-ci qui tous ont une base qui se différencie, il n'a ni base ni entablement. Ce prisme est coupé nettement par le plan du sol et par le plan du ciel. C'est le tronçon d'un prisme dont la hauteur serait potentiellement infinie. Mies souligne, insiste fortement sur l'angle aigu que fait le terrain avec la Friedrichstrasse et que montre ce sombre photomontage à droite. C'est évidemment un écho d'un bâtiment que connaissent bien les architectes allemands. C'est le Flatiron, construit par Daniel Burnham à New York au tout début du siècle, que les photographies d'Alfred Stieglitz ont rendu célèbre dans les magazines d'art. Et c'est aussi un bâtiment, comme vous le voyez à droite, qui a été publié par les radicaux du groupe Dada berlinois sur la couverture de leur journal La Neue Jugend, la nouvelle jeunesse. Mies pouvait d'autant moins ignorer ce bâtiment que sur cette étonnante photographie de la foire Dada de 1920, on voit l'un des membres du groupe, Johannes Bader, pointer du doigt la couverture de la Jugend avec le Flatiron, et l'on voit Mies vu de dos ici, dans un de ses costumes de belle laine qu'il affectionnait, regarder, un jeune Mies regarder ce bâtiment. Alors il y a, ceci dit, d'autres sources américaines qui me semblent tout à fait importantes pour ce projet. Une autre photographie de Stieglitz, la vue d'une rue de New York, qui nous montre un gratte-ciel en construction, c'est-à-dire un gratte-ciel qui n'est pas encore recouvert de pierre ou de céramique, et donc qui montre bien son ossature et qui finalement représente, bien qu'il ne s'agisse que d'une étape dans le chantier, qui représente comme forme bâtie une sorte d'idéal vers lequel des gens comme Mies ou Le Corbusier à Paris vont tendre, l'idée d'un édifice qui ne cache pas son squelette, son ossature derrière une façade plaquée. Un autre édifice important, c'est le plus grand, le plus vaste immeuble de bureaux du monde à l'époque, c'est l'Equitable Building, publié dans la presse berlinoise, notamment publiée en 1920 par Ludwig Hilbersheimer, qui sera un proche de Mises sa vie durant. L'Equitable Building est important par son volume. C'est le bâtiment qui, par sa présence menaçante et l'ombre qu'il jette sur les parcelles environnantes, va précipiter l'adoption d'une réglementation sur le zoning à New York. Mais c'est aussi un bâtiment intéressant par les canyons, par ces étroites cours ouvertes qui séparent ces différents composants. Alors, on va retrouver dans le projet de Mises à la fois le triangle du Flatiron, la transparence, ou en tout cas l'idée de la façade d'une ossature que l'on devinerait que photographie Stieglitz, et les canyons de l'Equitable. On y retrouve aussi d'autres exemples de façades en verre tout à fait proches. C'est le cas de la gare de Friedrichstrasse, qui avait été, à partir de 1919, transformée, modernisée avec cette façade vitrée. Donc, si l'on veut, ce modèle, ce précédent était littéralement devant les yeux de Mises à côté du terrain. Et quand on examine le sens de la devise sous laquelle le projet est rendu, c'est-à-dire la ruche, on est irrémédiablement amené à regarder les ruches de l'époque, et notamment ces ruches dites d'observation qui étaient utilisées par les naturalistes et les agronomes pour observer le travail des abeilles, ces ruches d'observation qui avaient des parois de verre, comme nous le voyons à gauche dans un modèle ancien et à droite dans un modèle d'aujourd'hui. Donc, ruche, la ruche au sens littéral n'était pas simplement le rassemblement de milliers, voire de dizaines de milliers de travailleurs dans un bâtiment unique, dans un immeuble en hauteur, mais la ruche, c'était aussi l'idée d'un objet transparent. Mises travaille sur ce bâtiment, vous voyez ici, vous voyez son grand dessin au charbon. Mises commence avec ce bâtiment à perfectionner ce mode d'expression, des dessins qu'il réalise debout, extrêmement contrastés, forts, presque violents, où l'on voit ici cet édifice cristallin se dégager de la masse noirâtre des bâtiments de Berlin. Mises le commente ainsi dans un texte publié dans la revue Frühlich, la revue L'Aube de Bruno Taut en 1922. Le terrain étant triangulaire, il m'a semblé qu'une forme prismatique s'imposait. J'ai fragmenté les façades selon des pans coupés afin d'éviter l'impression sinistre qui se dégage souvent des grandes surfaces vitrées. Faisait-il allusion à celle-ci? Je ne sais pas. Mes recherches sur une maquette en verre, la maquette est perdue, ont montré le chemin et j'ai très vite compris que lorsqu'on utilise le verre, ce ne sont pas les effets d'ombre et de lumière qui comptent, mais la richesse du jeu des reflets. C'est une chose importante. Mises ne s'intéresse pas en tant que tel à la transparence, bien qu'il joue sur elle. Nous voyons ici les planchers du bâtiment. Il s'intéresse plutôt aux reflets. Rupture ici avec la problématique tectonique de Behrens, l'expression de la structure à l'extérieur, fortement sculpturale. Il élimine toute différenciation verticale. Et il écarte aussi l'idée de l'articulation en façade des éléments porteurs et des remplissages. On peut voir ici, effectivement, l'idée dans cet édifice, dont voici l'élévation extraordinairement simple, un autre grand dessin au charbon, au fusain, conservé comme les autres dans les archives Mises du Musée d'Art Moderne de New York. On peut voir dans cette architecture de verre que reflète bien cette maquette réalisée en 1988 qui a l'avantage de souligner le contraste entre les édifices environnants et celui de Mises, de montrer quel est son rapport avec la gare derrière. Donc cette maquette qui effectivement est plus transparente que le projet ne l'aurait été, on voit bien combien Mises se situe dans cette problématique de l'architecture de verre, de la glace architecture, qui a donné son titre au livre du poète Paul Scherbart, publié en 1914 et qui est une sorte de bible pour les architectes modernes de la génération de Mies. Le volume, vous le voyez ici, est indifférent aux qualités spécifiques de chaque côté du terrain. Il ne s'intéresse pas véritablement, il n'est pas différencié en fonction du côté faisant face à la gare ou du côté faisant face aux immeubles. Vous voyez aussi qu'il a une cour centrale qui est en fait un puits de lumière autour duquel sont disposées les circulations verticales. Mais ce plan, qui est le seul survivant, ne donne aucune idée de la structure elle-même que Mies semble avoir tout à fait négligée. Alors Mies ne va pas... Une dernière vue de ce bâtiment, Mies va continuer à le diffuser, à le faire connaître. Voici une autre vue plus tardive dans laquelle, curieusement, il souligne cette fois l'importance de la Friedrichstrasse elle-même et de ses enseignes, de son animation, et n'en fait plus cette espèce d'univers sombre, presque repoussant, devant lequel émergeait son prisme de lumière. Un an après son premier projet, Mies en étudie un second. Toujours l'idée du gratte-ciel envers, cette fois-ci il n'a pas de programme, la proportion de l'édifice est aussi assez différente, il n'a pas de programme, il n'a pas de site. Le terrain est indéterminé, bien que Mies ait certainement eu à l'esprit un emplacement précis dans le centre de Berlin. Le bâtiment sera présenté dans la presse par un publiciste du nom de Karl Gottfried comme étant animé d'une sorte de force gothique qui émane de la dématérialisation et de l'intemporalité de ces volumes. Mies insistera quant à lui sur le caractère empirique de son approche, suggérant un patient travail de mise au point des courbes du plan qu'il est obtenu, ce travail, en ajustant les facettes sur un socle de terre à modeler, sans vraiment avoir de rapport direct avec les expériences des peintres de l'époque. Donc voici le plan de ce bâtiment, qui est en fait, vous le voyez, un bâtiment double, pratiquement double, deux bâtiments centrés autour avec une circulation, un espace partagé et deux circulations verticales. Il n'y a plus de cour au milieu. Évidemment, le terrain reste largement triangulaire, mais n'est plus précisément situé comme l'était celui de la Friedrichstrasse. Voici une hypothèse sur la structure du bâtiment qui n'a pas été proposée par Mies lui-même, mais par l'architecte néerlandais Mark Stam en 1925, qui nous donne une idée de ce qu'aurait pu être l'édifice, mais qui malgré tout introduit une différenciation par rapport au projet de Mies avec ses allèges ici qui sont absentes de la façade complètement vitrée, comme le montre d'ailleurs la vue de maquette présentée à côté. Ici, une autre image intéressante qui nous montre bien le travail sur les facettes tel que Mies va le réaliser. Le travail sur l'angle des pans de verre étant déterminé par l'exposition des pièces, par l'impact de la structure de l'édifice dans son environnement urbain et par le jeu des reflets. Donc c'est un travail que Mies mène de manière tout à fait rigoureuse, expérimentale, et qu'évoque Sergius Rügenberg, qui est son assistant, qui sera son assistant pendant une douzaine d'années, avec cette caricature où on le voit vraiment sculpter lui-même sa maquette. Alors l'inscription du projet dans le site berlinois est suggérée sur cette maquette qui est présentée à la grosse Berliner Kunstausstellung, la grande exposition d'art de Berlin de 1923. Une rangée de maisons de rapport berlinoises en terre à modeler entourant la tour transparente. Elles sont en fait réalisées par le sculpteur Oswald Herzog. Ce contraste faisant office à la fois de repoussoir et de faire valoir pour la tour dans un jeu qui a pu être rapproché aux stratégies du cinéma expressionniste. Je pense aux analyses qu'a pu en faire Spyros Papapetros, très, très subtiles. On peut aussi penser à Walter Rathenau et à la critique que Rathenau faisait des immeubles berlinois de compromis, que j'ai déjà évoqué. Rathenau écrivait en 1912 à propos des immeubles de Berlin: « Ces immeubles bâtards de bureaux et d'habitations dont le quatrième étage déborde de fenêtres en saillie sont difficiles à traiter architectoniquement. Par contraste, la tour dont les villes américaines nous donnent l'exemple permet effectivement de nouvelles solutions satisfaisant tous les besoins en air et en lumière. Rathenau aurait-il écrit le programme secret de Mies? Je n'irai pas jusque-là, mais il est clair que son propos est comme illustré presque directement par ce projet. Voilà ici donc une photographie de la maquette qui est exposée après avoir été publiée par Bruno Taut dans Frühlicht. Cette maquette est exposée, vous le voyez ici, dans la première grande manifestation du Bauhaus de Weimar, organisée par Walter Gropius en 1923. On y trouve cette maquette et d'autres, alors que Mies lui-même s'oppose aux propos de l'exposition de Weimar. Il en dénonce dans une lettre le formalisme constructiviste et l'indistinction artistique nébuleuse. Il est vrai que c'est une exposition dans laquelle les différents courants constitutifs du Bauhaus sont présents, notamment Eaton et son mysticisme masdéen à côté d'artistes plus rationalistes comme Mohoi Neusch. Le gratte-ciel de Mies est également publié sous toute une série de manières. Il l'est par exemple par Lisitsky dans ce numéro de la revue Gay, dont je vais parler, en 1924, juxtaposé à un petit édifice de Oud et à la coupe, un os coupé, ce qui est parfaitement cohérent avec le propos de Mies sur une architecture qui serait une architecture d'os et de peau, de squelette et de peau. Eh bien, Lisitsky illustre précisément cette position. Les vues de la maquette de Mies vont continuer à circuler tout au long des années 20. On le voit ici dans cette illustration. Ces projets vont traverser l'Atlantique et être discutés, par exemple ici, dans le Journal of the American Institute of Architects en 1923, Skyscrapers in Germany. C'est un article extrêmement intéressant et intrigant dans lequel le critique William Stanley Parker analyse le plan de l'immeuble de la Friedrichstrasse comme étant, je cite, le tableau d'un bâtiment nu descendant un escalier. Donc il le rapproche du célèbre tableau de Marcel Duchamp présenté à l'Armory Show de 1913 dans son caractère iconoclaste, dans son dynamisme aussi. C'est alors aussi au début des années 20 que l'idée de la tour de verre se diffuse dans toute l'Europe, et les rapports entretenus notamment par le premier gratte-ciel de verre, celui de la Friedrichstrasse de Mies, et les villes tours de Le Corbusier méritent d'être explorés. Mies avait-il connaissance des villes tours de Perret et de Le Corbusier? Sans doute pas. En tout cas, Le Corbusier, dès 22, aura connaissance des projets de Mies qui le consolideront, le conforteront dans sa stratégie. Et c'est un gratte-ciel qui connaîtra également, ici pour l'anecdote, qui connaîtra également des échos considérables jusqu'au fond de la Russie. Voici par exemple un petit livre de 1931 qui présente ce que doit être la nouvelle ville, et qui illustre la photo de la maquette de Mise en œuvre. Donc ce bâtiment va être dissocié de son substrat berlinois et circuler très largement. Il est à Berlin, il est aussi diffusé, il est aussi présenté dans l'exposition mémorable des architectes du groupe de Style qui se tient à l'automne 1923 à Paris, dans la galerie de l'effort moderne, à côté des maquettes de Theo van Doesburg et Cornelis van Esteren. Ce qui d'ailleurs amènera beaucoup de critiques français à considérer que Miss van der Rohe, avec un van bien néerlandais et pas un von, était un architecte néerlandais. Ce sera le cas pendant un certain nombre d'années. À Berlin même, Miss n'est pas un solitaire. Il participe, il est associé aux travaux du groupe qui s'est formé autour de la revue Gay, Material für Elementare Gestaltung, matériaux pour la conception élémentaire. Gestaltung, c'est la mise en forme, la conception au sens large. Revue qui, comme l'Esprit Nouveau et comme un peu plus tard Sovremennaya Architektura en Russie, va présenter des images issues du monde de la technique. En tout cas, Miss y écrit sur les édifices industriels, comme le montre la page de droite, dans le reprint, magnifique reprint du Getty Research Institute, de tous les numéros de la revue Gay. Vous voyez que la couverture présente le bâtiment de Miss avec en repoussoir un édifice traditionnel redessiné et nettement moins éclectique que ceux de la maquette. Hilbersheimer, ami et partenaire de Miss, publie sur les rapports de la construction et de la forme. Gay s'interroge aussi au développement de la technique. Que savez-vous sur l'automobile de l'avenir? L'idée que les automobiles vont connaître une évolution semblable à celle des organismes vivants, en quelque sorte. Gay publie aussi des textes sur la peinture, sur celle de Mondrian, sur Gross, et publie dans ses premiers numéros, dans son premier numéro, le troisième projet théorique de Mies van der Rohe, qui est ce projet d'immeuble de bureau en béton. C'est un projet totalement différent des précédents, est également présenté à Weimar en 1923 et à Paris. Ce projet reste assez mystérieux parce que tout ce que nous en connaissons, eh bien, c'est ce dessin mal reproduit dans Gay, mais très bien conservé dans la version du musée d'art moderne que voici ici. Et comme vous voyez, ce dessin est incomplet. Donc on ne peut qu'imaginer, on a toutes les raisons d'imaginer que le bâtiment était symétrique et qu'il avait très certainement une cour centrale. Les dalles des poteaux, les dalles des niveaux que vous voyez ici sont portées par deux systèmes orthogonaux de portiques en béton armé, dont la clarté et la rigidité inciteront Miss à affirmer que ce bâtiment n'a rien à voir avec ce qu'il appelle la nouille, c'est-à-dire par allusion à l'art nouveau, au style nouille dont sont faits les immeubles contemporains à Berlin. Les portiques, l'anthraxe des portiques est de 5 mètres, et ils ont, comme vous le voyez, ils enjambent de chaque côté des porte-à-faux. En fait, verticalement, l'immeuble semble flotter au-dessus du sol, intéressant, dont il est séparé par une bande de fenêtres. En guise, pas d'entablement, pas de corniche, une dalle qui est semblable aux autres, qui coiffe un étage de hauteur réduite. Quant aux étages eux-mêmes, ils ont des garde-corps hauts d'au moins 2 mètres, tel qu'on peut l'imaginer en analysant ce dessin de près, avec une façade en retrait, ce qui vise certainement à l'abriter de la pluie. Pas d'indication sur le cloisonnement, pas plus dans ce dessin que dans le seul croquis qui est conservé. Aucune indication de cloisonnement, sauf dans le hall que vous voyez ici, sauf dans le hall qui est bordé par deux murs. Miss insiste sur le fait que le retournement des dalles de plancher qui viennent former les allèges de la façade permet d'installer sur le pourtour de l'espace intérieur des meubles de rangement qui libèrent complètement les plateaux. Il s'agit en sorte d'une usine à étages, finalement d'une usine à étages où la liberté que donnait l'immeuble, la liberté encore relative que donnait l'immeuble Mannesmann ici, la liberté des aménagements modulaires est complètement transformée et décuplée par le principe de la construction à ossature, pour laquelle on peut légitimement penser dans ce cas que Mies connaît la maison de Minot de Le Corbusier, qui est une des réflexions, en tout cas la plus manifeste, sur la question. À l'occasion de la publication de cet édifice dans Gay, Mies publie un de ses tout premiers manifestes. Comme je l'ai dit, Mies n'est pas un grand bavard et il en publiera fort peu, mais ceux-ci, ces textes du début des années 20, sont tout à fait importants. Je cite, « Nous refusons toute spéculation esthétique, toute doctrine et tout formalisme, l'architecture et la volonté de l'époque traduite dans l'espace. » C'est le mot d'ordre le plus important, cette volonté vivante, changeante, neuve. Volonté de l'époque traduite dans l'espace. Ça n'est pas le Zeitgeist, ça n'est pas l'esprit, et c'est plus que l'esprit, c'est la ville, la volonté qui participe d'une position délibérée. Et donc, tout s'oppose, tout en ayant retenu beaucoup de leçons de ce bâtiment, qu'il connaissait bien, Mies s'y oppose fondamentalement. Il s'oppose aussi à l'architecture plastique, telle que celle d'Eric Mendelssohn, sa tour d'Einstein, qui a l'air d'être en béton mais est en brique enduite. Pour lui, c'est un bâtiment aussi repoussant que l'immeuble Mannesmann. Dans le même texte, il écrit « Les bâtiments de béton armé sont par essence des bâtiments à ossature, comme la maison de Minot, et non des nouilles ou des tourelles de tank. Des constructions de poteaux et poutres sans murs porteurs, donc des bâtiments de peau et d'os. Ici, il y a la peau, mais il n'y a pas d'os. » Mies se rapproche dans cette période d'architectes comme Hilbert-Simon, je l'ai déjà dit, mais il ne participe pas en 22, il est occupé par les projets berlinois, comme Hilbert-Simon au concours du Chicago Tribune, auquel les architectes allemands sont très fortement représentés. Hilbert-Simon à gauche, Walter Gropius, Max Staudt. Il est aux côtés d'Hilbert-Simon et le fréquente quand celui imagine sa ville verticale pour Berlin. Mais c'est alors vers d'autres thèmes qu'il s'est orienté. Mies, en effet, après avoir étudié ces trois immeubles de bureaux, a publié dans Gay en 1923 un projet de maison de campagne en béton. Alors, le programme de la maison de campagne, c'est un programme qu'il connaît fort bien, puisqu'il a construit la maison de week-end, puisqu'il a construit toute une série de maisons plus traditionnalistes, je dirais, avant la guerre, et qu'il est en train d'achever la maison Mosler. Il s'oppose au premier bâtiment réalisé par les architectes de sa génération, notamment Walter Gropius et cette maison Sommerfeld, très anguleuse et expressionniste, construite en 1922 pour Sommerfeld, qui est un négociant en bois. Sommerfeld est un négociant et un constructeur de maisons en bois, et donc il est clair que la maison de Gropius magnifie ce matériau. Mies, je crois, de façon polémique, insiste sur le fait que cette maison doit être en béton. Et avec cette maison, il propose un manifeste qui est tout à fait clair. Ce manifeste, vous le lisez ici en allemand, et il écrit qu'il n'y a pas de problème de forme, mais seulement des problèmes de construction. La forme n'est pas le but, mais le résultat de notre travail. Il n'y a pas de forme en soi. Forme comme but en soi, c'est le formalisme, et nous le rejetons. Et nous rejetons tout à fait tout à fait autant l'idée d'un style. Donc pas de style, pas de forme, mais des Bauproblemen, des problèmes de construction. Alors comment le problème est-il résolu ici? Est-il traité, résolu? On connaît fort peu de choses sur cette maison de campagne en béton. Pratiquement, c'est deux photographies de maquette et deux élévations qui nous montrent Miss jouant ici avec l'idée que le béton pourrait être coloré ou en tout cas utilisant la couleur pour souligner les contrastes entre les fenêtres en longueur des maisons et le volume dans son ensemble. Ces maisons, l'emplacement, non pas d'emplacement explicite, mais on peut supposer qu'elles étaient censées être construites dans la région de Potsdam. On peut aussi faire l'hypothèse selon laquelle le maître d'ouvrage, le client théorique, était Miss van der Rohe lui-même, puisqu'on retrouve la forme, cette forme en U qui était celle de la maison qu'il avait dessinée en 1914. Mais l'absence de contexte et d'orientation explicite du terrain rend toutes ces spéculations un peu oiseuses. La maison de campagne en béton utilise une structure porteuse de poteaux comme l'immeuble de bureau, mais elle n'en reconduit pas la trame régulière. En tout cas, les ouvertures peuvent être percées littéralement, car comme l'écrit Miss, la mince peau en béton armé forme à la fois les murs et la toiture. Et vous voyez qu'elle permet donc, l'ossature derrière va permettre d'avoir des linteaux d'une très grande longueur et donc des fenêtres en longueur. En effet, avec ce système, il a pu, écrit-il, concentrer les éléments porteurs et de contreventement, de résistance à la déformation sous l'effet du vent, en des points peu nombreux du bâtiment. Voici donc un édifice qui est intéressant, que l'on peut rapprocher de deux autres constructions contemporaines, l'une théorique, c'est-à-dire la maison particulière de Van Doesburg et Van Esteren, où l'on retrouve, sans que l'hypothèse d'une ossature puisse être véritablement faite, on y retrouve en tout cas l'idée de percement du même ordre, de percement s'étendant pratiquement sur toute la longueur des murs, de pans de verre remplaçant même le mur lui-même, selon un principe que Le Corbusier reprend dans la maison La Roche et Jeanneret. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une maison, on le sent avec son rapport au sol, qui regarde vers les tendances contemporaines en Europe, mais ne s'affranchit pas complètement de la relation avec Schinkel. Idée notamment du dessoubassement, des emmarchements, et cette idée que Miss avait déjà pu observer dans les bâtiments de Schinkel avant 1914. Le dernier projet, le dernier des cinq projets sur lequel Miss travaille dans cette période, c'est un projet de maison de campagne en briques. Cette fois-ci, le terrain est explicite, c'est un terrain de la région de Neubabelsberg que Miss connaît très bien et dans lequel il voulait s'établir depuis longtemps, entre Neubabelsberg et Werder, à l'ouest de Berlin. Ce projet sera présenté à la grosse Berliner Kunstausstellung de 1924 et seuls subsistent deux dessins, ou deux reproductions de dessins, les originaux sont perdus, cette perspective ici est le plan. Fait un plan réalisé au fusain peu avant l'ouverture de l'exposition, au fusain et au crayon, la vue est au fusain. Il y a des différences entre le plan et la perspective qui rendent l'interprétation de ce projet difficile, la perspective pouvant être considérée comme antérieure. C'est un projet qui se ressent, il faut le dire, des œuvres vues à l'exposition la date figurant sur cette diapo est inexacte, figurant à l'exposition de Weimar et du travail de De Staël. Elle est strictement contemporaine, cette maison, et je crois qu'il est intéressant de le noter, de la maison Mosler, que j'ai présentée dans son rapport avec les maisons de l'avant-guerre, mais lorsque l'on analyse Mises est donc à la fois capable au même moment de travailler pour des clients plus conservateurs et lorsqu'il est lui-même le client de se libérer, il est intéressant de voir ici le bloc de la salle à manger avec son toit terrasse et la maçonnerie de briques plates, de briques allongées qui aurait pu être celle de la maison elle-même. C'est en tout cas ce que l'on imagine ici sur ce dessin qui ne rend pas compte de l'échelle véritable des assises de briques, car elles deviendraient des traits à l'échelle de la perspective. Alors, Mies va souligner le contraste de cette maison avec la maison en béton et les autres maisons traditionnelles. Je le cite, « Dans le plan de cette maison, j'ai abandonné le principe habituel des volumes clos. À une série de pièces distinctes, j'ai substitué une suite d'espaces ouverts. La paroi perd ici son caractère de clôture et ne sert plus qu'à l'articulation organique de la maison. Donc il n'y a pas que des murs porteurs, il n'y a pas de porte d'ailleurs. Fluidité totale dans la circulation intérieure et dans le rapport avec l'extérieur. On devine à peine de fines façades de menuiserie métallique et de verre que l'on voit sur la perspective. Cet espace fluide et continu invite au mouvement et propose une ouverture contrôlée vers le paysage. Ce qui est intéressant malgré tout et problématique quant à l'intégrité structurelle du bâtiment, c'est que comme par exemple Wolf Tegetthoff, qui a travaillé de près sur ces maisons, l'a remarqué, les linteaux de ces fenêtres sont beaucoup trop longs pour être réalisés avec des briques. Donc ils sont soit réalisés en béton, soit armés avec de l'acier. Donc le système théorique est un système hybride. Le plan, vous le voyez ici, est polarisé vers deux zones de densité plus grandes, donc plutôt polarisé que centré, fait apparaître un jeu graphique de traits épais ou de rectangles étirés qu'il a été tentant de rapprocher de cette composition de Van Doesburg. C'est un parallèle qu'a proposé Alfred Barr, le directeur du musée d'art moderne de New York en 1936, en indiquant qu'il y avait des affinités entre la démarche de Mies et celle de Van Doesburg que connaissait Mies incontestablement. De là à établir un lien direct entre ces deux figures, je ne m'y risquerai pas, et je me risquerai peut-être plus à souligner le rapport du projet de Mies avec d'autres œuvres. Je pense au projet pour l'affirmation du nouveau de Lissitzky que Mies avait connu puisqu'il avait exposé son gratte-ciel en verre à la grande exposition de Berlin de 1923 où Lissitzky avait exposé sa Braunenraum, la salle des Braun. Et il connaissait évidemment certains des Braun qui avaient été publiés sous forme de lithographie ou exposés, et dans lesquels on voit ce jeu entre les plans épais se déployer. Donc la figure est ici une figure tridimensionnelle et pas bidimensionnelle comme celle de Van Doesburg. Autre parallèle intéressant, lorsqu'on regarde par exemple ces photogrammes à droite, ce sont les film moments, les moments filmiques de Hans Richter que connaissait fort bien Mies, puisque Richter était l'âme de la revue Gay. Richter relate dans ses mémoires qu'il découvre Mies par l'entremise de Van Doesburg, Van Doesburg dit à Richter que les plans de ses maisons ressemble au dessin de Mondrian, ou au mien, aurait-il pu ajouter, ou bien à ceux de T. Rouleau. Les rouleaux, c'est ceci. Et Richter dira, plus qu'un plan, j'y voyais un nouveau langage, précisément celui qui semblait devoir rallier notre génération. Alors, un autre axe de confrontation sur lequel je terminerai mon propos, c'est le rapport de Mies avec Frank Lloyd Wright. Mies connaissait très bien l'architecture néerlandaise et Bernard, dont j'ai déjà parlé, mais il connaissait intimement les recherches de Frank Lloyd Wright et son travail sur la fluidité des espaces intérieurs dans les programmes domestiques. En 1940, il affirmera que sa dette envers Wright remonte à 1910. Je pense que c'est sans doute 1911, en fait, lorsque ce portfolio des bâtiments réalisés et des projets de Mies est publié en Allemagne. Il écrit, et cette dette est très importante puisqu'elle aura un effet, je dirais qu'elle sera presque, non pas remboursée, mais compensée par Wright lui-même à la fin des années 30, lorsqu'il accueillera Mies aux États-Unis. En l'occurrence, que dit Mies en 40 de Wright en 1910? Je cite, « C'est à ce moment, si critique pour nous, qu'eut lieu l'exposition de l'œuvre de Wright à Berlin. Cette vaste présentation et la publication détaillée de ses travaux que vous voyez ici nous permit de découvrir l'œuvre de cet architecte. Cette rencontre allait avoir une grande importance pour le développement de l'architecture en Europe. » Je cite encore, pardonnez-moi, « L'œuvre de ce grand maître nous a conduit dans un monde architectural d'une force et d'une clarté de langage inattendue et aussi d'une richesse surprenante de la forme. Enfin, nous tenions un bâtisseur puissant à la vraie source de l'architecture, puisant à la vraie source de l'architecture, qui élevait avec une réelle originalité ses créations architecturales vers la lumière. Enfin, une véritable architecture organique s'épanouissait devant nous. » Il cite en 40 le terme d'organique, sans doute pour faire plaisir à Wright. En tout cas, près de 15 ans après avoir quitté l'atelier de Behrens, dont il est parti en 1912, Mies, disons 12 ans, 13 ans, Mies semble avoir enraciné sa démarche dans une synthèse personnelle des expériences de Bernard, de Schinkel, de Wright, relu au travers des hypothèses géométriques et constructives de ses interlocuteurs au sens de l'avant-garde, mais dans le même temps, il s'intéresse il propose des réflexions sur l'architecture, et notamment privilégiant le rejet des préoccupations purement formelles ou le rejet des préoccupations exclusivement structurelles. Il propose une nouvelle attitude envers la construction et présente dans ses conférences, à titre d'exemple, des vues de tentes d'Indiens d'Amérique, d'igloos esquimaux ou de huttes de branchage. Son intérêt pour les cabanes ne provient pas de la lecture de l'essai sur l'architecture de l'abbé Laugier, mais plutôt de la lecture, oui, voici une des maisons de Wright dans son expansion horizontale qui correspond et jusque dans son plan à certaines des idées que l'on vient de voir chez Mies, notamment dans le plan de la maison de campagne en béton. Et voici un des livres de chevet de Mies dans cette phase, L'Afrique inconnue de Leo Frobenius, qui présente beaucoup d'images de cases et de construction observées localement. Et donc, Mies est à la fois celui qui prône l'industrialisation de la construction et dans le même temps l'idée d'une écoute, d'une observation de l'Afrique. Sur un axe de préoccupation plus théorique, son texte de 1924, Baukunst und Zeitwille, architecture et volonté de l'époque, fait écho à l'affirmation inscrite sur la page de garde de la monographie sur Peter Behrens, publiée en 1913, selon laquelle l'architecture incarne la manifestation rythmique de l'esprit du temps. Sa volonté de rupture, celle de Mies, a d'incontestables accents nietzschéens, avec notamment l'idée de l'éternel retour. Et c'est capté par ses amis comme Hilbert Seimer, qui, lorsqu'il commente plus tard les fenêtres en longueur de l'immeuble de bureau en béton qu'on a vu aujourd'hui, cite à leur propos la salutation de Zarathustra de Nietzsche qui évoque des êtres orthogonaux de corps et d'âme. dans son texte, donc Mies saluait la volonté de l'époque, définissait l'architecture comme volonté de l'époque traduite dans l'espace, et rien d'autre. Mais pour lui, ce n'est pas simplement dans l'architecture qu'il trouve son inspiration et les éléments de sa réflexion. Et Mies est alors non seulement lecteur de Frobenius, mais aussi lecteur de Français qui s'intéresse aux plantes et aux formes qu'elles génèrent. Il est lecteur de Spengler et du déclin de l'Occident. Il élabore une culture originale, syncrétique, éclectique, un peu de dilettante, mais commence aussi à apparaître aux yeux de ses camarades, je pense ici à Hans Richter, comme une figure tout à fait représentative de ce qu'est cette Allemagne de Weimar. Dans un article de 1925, Hans Richter décrit ce que doit être pour lui le Neue Baumeister, le nouveau maître d'œuvre, et que j'illustre avec ce tableau de Schnarrenberg, montrant l'architecte sur le chantier. Pour Richter, le nouveau bâtisseur, le nouvel architecte, opère dans un espace organisé internationalement. Il exprime une nouvelle sensualité et sa capacité à répondre à une société plus pratique et moins sentimentale, dans un monde de mobilité rapide et de calcul précis. Je crois que l'on peut voir dans cette définition de l'architecte un premier portrait de ce que Mies est en train de devenir dans l'Allemagne de Weimar, et nous en verrons les manifestations ultérieures dans la troisième leçon. Merci.